Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as aimés, que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Quel privilège qu'on a maintenant de te connaître et de chercher à te connaître à travers les Écritures. On est béni par le fait que tu te révèles ici et tu veux qu'on te connaisse, qu'on te comprenne. Et Seigneur, des fois, ce n'est pas évident. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui nous dérange, c'est difficile à nous avoir l'habilité de comprendre ce que toi, tu es en train de faire en ailleurs de toutes choses. Commence ce matin que tu puisses nous éclairer, nous ouvrir les yeux par ta parole. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à tourner avec moi à Genèse, chapitre 38. C'est une histoire que j'ai passée par-dessus il y a plusieurs semaines. J'ai fait exprès, pas parce que je ne voulais pas le couvrir, mais parce que je trouvais que sa place dans les Écritures n'est pas bien comprise jusqu'à temps qu'on a complété Genèse. Et là, on regarde en arrière et puis on est capable de voir Genèse 38 dans la lumière que Dieu a placée ici. Genèse 38, c'est l'histoire de Judas, un nom important dans les Écritures. Chapitre 38, verset 1, on lit « En ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères et se retirait vers un homme, Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Et elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Onan. Et elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appelait Shéla. Judas était à Sib et quand elle l'enfanta, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de la postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel et il fit aussi mourir. » Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parla ainsi, dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habitait dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Et lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Jumelite. Et en informant Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Tima. Car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas ce qui c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Elle y répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu une gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Il répondit, « Quel gage je te donnerai? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as dans la main. » Et il lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et elle s'en alla, elle ôtait son voile, elle remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, la Jumelite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à l'année sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu n'ont dit qu'il n'y en a point ici de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé le chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas que ta mère, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, « Faites-la mourir, qu'elle soit brûlée. » Comme l'on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet et ces cordons et ce bâton. » Et Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il avait 2 jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y a eu un qui présentait la main. La sage-femme l'a pris et attacha une file cramoisie en disant, « Ceci sort le premier. » Mais il retirait la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et elle lui donna le nom de Pérès. Ensuite, sortit son frère qui avait le fil cramoisi, et on lui donnait le nom de Zérach. Ça, c'est la parole de Dieu donnée pour nous. Hein? Drôle de chapitre, drôle dans le sens qu'on dirait, en plein milieu de l'histoire de Joseph, on insère une histoire ici qui est en fin de compte dégueulasse. Cherchant parmi les commentaires, on peut trouver toutes sortes d'interprétations. Dieu essaie de nous dire qu'on ne devrait pas avoir les prostituées. OK. On peut voir le péché là-dedans. On n'a pas besoin d'avoir une grande explication, n'est-ce pas? On voit ça et on sait que ce n'est pas correct. Mais la question se pose, pourquoi est-ce que c'est ici? On a 12 chapitres avec l'histoire de Joseph et en plein milieu, on insère cette histoire ici. C'est une histoire qui est laide tant qu'à moi. 2 pécheurs qui semblent interagir. Et pour quelle fin? Et parmi les commentaires, ce qui ressort dans quelques-uns des paroles très sages, on trouve ici un exemple important, essentiel même, de la providence de Dieu. R.C. Sproul décrit la providence comme étant la souveraineté de Dieu appliquée vers un objectif spécifique. On pense à Dieu comme étant souverain. Dieu est en contrôle de toutes choses. Il était en contrôle même de nos vies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on expérimente? C'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. C'est Dieu qui gère toutes ces choses-là. Mais R.C. dit que c'est plus une question d'avoir un objectif en arrière de tout ça. Dieu fait ça pour une raison quelconque. Et je trouve ça fascinant parce qu'en regardant ce passage, il y a un plan de Dieu qui est en marche. Oui, Joseph est envoyé en Égypte. Nous savons que Joseph va sauver sa famille. On sait qu'il y a un objectif très, très clair. Mais pourquoi cette histoire de Judas? Qu'est-ce que Judas fait là-dedans? Et on voit les choses qui se compliquent. Alors, John Flavel, c'est un puritain anglais, il a écrit beaucoup de bonnes choses. Il avait un sens de s'exprimer. Des fois, des façons, on lisait ses affaires, on arrête, on y pense un peu. Puis là, il y a un petit sourire qui sort. Hein? Alors lui, il dit, par exemple, la providence, c'est comme une merveilleux, un tissu fantastique fait de milliers de fils. Que lorsqu'on regarde un seul fil, il semble très inutile. Mais assemblé dans un tissu, ça devient un objet de beauté un objet qui est merveilleux à nos yeux. Un de ses commentaires qu'il a fait qui est sur la providence, parce qu'il a écrit tout un livre sur la providence, il a dit que Providence of God is like Hebrew words. It can be only read backwards. Si vous savez un peu, le problème, c'est que le langage hébreu n'est pas de gauche à droite comme nous sommes habitués. C'est Pierre, c'est droite à gauche, c'est à l'envers. Et pour l'apprendre à lire l'hébreu, la première chose qu'on apprend, c'est de lire de reculons. Hein? Mais ce que Flavel est en train de dire, c'est que la providence de Dieu est comme les mots hébreux. Elle ne peut pas être lue qu'à l'envers, en reculant. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas une question de simplement de dire, on commence avec Genèse 1 et on se promène à travers les Écritures. Flavel est en dire, si tu veux comprendre Dieu, tu commences avec l'Apocalypse et tu lis en reculant. Bon, hey, si on fait ça avec avec Judas, par exemple, parce que c'est l'homme dans notre histoire aujourd'hui, c'est où la dernière place dans les Écritures où est-ce qu'on trouve Judas? Je ne sais pas, vous autres aurez COVID. On était dans Apocalypse et justement, on est arrivé à la place où on parlait de Judas. Parce que, Apocalypse. La dernière place qu'on parle de Judas, c'est dans Apocalypse 5. Où on parle ici de le fait que Jean voit dans le ciel, il voit un livre écrit, qu'est-ce qu'il dit à Apocalypse 5? « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans, en dehors, scellé de sept sceaux, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir ni le livre, ni le regarder. Et je pleurais, Jean, il pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Juda se trouve au ciel et on est en train de dire c'est de sa descendance qui va venir celui digne. Et vous savez tout qui est. Vous savez qui est, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus. Mais c'est le fait que Jésus vient de la ligne de Juda. Alors, Juda apparaît aussi dans les généalogies de Jésus. Et ce qui est très important avec ce qu'on a lu tantôt, c'est de comprendre que dans les généalogies de Matthieu et de Luc, on voit Juda comme étant le père d'un homme qui s'appelle Pérès. Hein? On l'a lu à la fin du chapitre 38, la naissance de Pérès. C'est le fils de Juda et le fils de Tamar. Mais Juda paraît à plusieurs places à travers les Écritures. Et il y a quelques places où ce que moi je trouve ça un peu spécial. Dans Ruth, on a cette fameuse histoire d'amour, le drame, une jeune fille moabite qui est intégrée dans le peuple d'Hébreu, les Israélites. Et on sait que dedans, il y a une histoire très importante. On va parler tantôt de ça, le mariage lévite. C'est un mariage très spécifique avec des conditions très précises. Qui a le droit d'avoir ce mariage? Et on sait que Boaz a le droit, hein, de marier cette fille Ruth. Et lorsqu'il choisit Ruth et qu'il décide, il l'annonce à la ville de Bethléem, il l'annonce à tout le monde qu'il va le marier. Et les gens lui donnent louange. Et dans les louanges, devine quoi? Verset 12 de chapitre 4 de Ruth, on a cette expression de le peuple. Dans le village, ils disent, « Puisque la postérité de l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfantée à Juda, de Tamar. Et là, il y a une description d'une maison remplie de bonheur, remplie de succès, remplie de bénédiction de la part de l'Éternel. Et moi, j'ai beaucoup de misère parce que j'ai encore en tête, moi, ce qu'on vient de lire en chapitre 38. Puis pour moi, là, c'est pas un foyer de bénédiction, de joyeux. C'est un drame social. C'est une famille complètement dysfonctionnelle. Si on regarde tout ce qui s'est passé, Dieu a tué deux des garçons hein, parce qu'ils étaient tellement désobéissants. On a une femme qui va tricher son beau-père. On a toutes ces affaires-là qui arrivent et vont se dire, « T'as une minute, comment ça se fait à travers les Écritures? » On commence à parler de Judas comme ça et de sa maison, de sa femme, de ses enfants. Vous ne trouvez pas ça un peu spécial? Et si on fait comme Flavel nous dit de lire en reculant, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre pour qu'on puisse en arriver avec une histoire remplie de bénédictions? Dans le chapitre 49, on a passé un peu dessus rapidement. 49, Jacob va bénir ses 12 fils. À la suite de Joseph et de tout ce qu'il a pu faire pour sauver sa famille. Et on s'attendrait que Jacob va bénir Joseph d'une façon au-dessus de toutes les 11 autres. Et c'est vrai qu'il va bénir Joseph, mais ce n'est pas celui à qui il donne toute la gloire et tout l'honneur. Devine à qui il donne. Judas. Et on regarde, on dit, ça se peut-tu? Il va le décrire, Judas, comme étant un lion. Comme un lion qui a le sceptre qui ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Judas va devenir celui qui est prééminent dans Israël. Pas le premier-né. Hein? Le premier-né, c'est Ruben. Et on a vu ça dans chapitre 49, verset 3 et 4. Pourquoi? Parce que il a souillé le lit de son père. Encore l'immoralité qui l'a enlevé le droit d'aînesse qu'il avait. Bien, ça passera évidemment au deuxième. Hein, le deuxième, bien, c'est Lévi, et ensuite Simeon, le troisième. Mais eux autres, ils sont exclus à versets 5 à 7 de Genèse 49. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la violence. Ils ont littéralement, ils ont tué toutes les hommes dans un village au complet. Ils ont été remplis de colère, de rage, et ils ont descendu lors de le fait que leur sœur a été violée. Ils ont complètement détruit le village. Et vous vous souvenez, si vous souvenez en fin de compte de ce qu'on avait lu, c'était quelque chose où ce que Jacob n'était pas content. Il était vraiment déçu par le comportement de ses fils. Et là, voici à la fin, hein, Jacob va littéralement leur enlever les droits d'aînesse. Alors, il reste Judas. Mais t'as une minute, Judas, c'est pas nécessairement le meilleur des fils non plus. Il est le quatrième en ligne, mais lui aussi est coupable de toutes sortes de choses. Il est coupable d'immoralité, il va courir après les prostituées. Il va être violent, il va vouloir brûler sa belle-fille. Ah, mais tu regardes, c'est grave. Et pour rajouter, si tu veux, la cerise sur le gâteau, on retourne un chapitre, chapitre 37. Qu'est-ce qu'il fait à Judas? Judas, il dit, non, on ne va pas tuer mon frère Joseph. Pas parce qu'il était gentil, parce qu'il voulait l'argent. On va le vendre en esclavage et on va se faire un peu de fric, hein? Ça va être un peu bon, hein? Qu'est-ce que t'en penses, les gars? C'est bien mieux ça que d'être des meurtriers, hein? Et il va le vendre. C'est un homme affreux. C'est un homme qui est vraiment pas qualifié. Et pourtant, Jacob va lui donner la prééminence dans la famille. Il va le donner à Judas. Et faut pas penser en mal. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il a béni Ephraim et Manassé et non Joseph? C'est bien simple, parce qu'il donnait à Joseph une double portion. Il était vraiment, vraiment, il voulait gâter son fils favori, Joseph. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il donne le droit d'aînesse à Judas. Là, il y a quelque chose qui arrive dans le chapitre 38, puis ça, je voudrais que vous le constatez. Ça va prendre un petit peu de temps, on va le décortiquer dans quelques minutes ici, et tu vas voir que quelque chose arrive à Judas. Quelque chose de spectaculaire tant qu'à moi. Lorsqu'on regarde ceci, on voit que ils l'ont vendu, Joseph, et à chapitre 37, on voit que Joseph s'en va en Égypte, il est parti. Et là, on commence chapitre 1 avec Judas qui va faire quelque chose. Non, pourquoi est-ce que Judas, verset 1, il dit, en ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères? Y avait-il une différence d'opinion? Y avait-il un conflit? On ne sait pas. Moi, je peux regarder le dernier verset de chapitre 37 puis voir qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Et la chose, c'est affreux, c'est qu'il y avait un péché. Ils ont vendu leur frère en esclavage. Son frère qui criait dans le puits, « Laisse-moi sortir, les gars! Arrête! Fais pas ça! Hein? » Les autres, ils voulaient le tuer. Et Judas a dit, « Hey, voici des commerçants qui arrivent. Et on va le vendre. » Et les autres ont décidé de manger pendant que leur frère criait. C'est ça qu'on lit plus loin. Hein? Et on voit comment est-ce que Judas doit avoir un certain sentiment. Ils ont pris le manteau de Joseph. Ils l'ont déchiré, ils l'ont teint avec le sang d'un chèvre, et puis ils l'ont amené à Jacob, et ils ont dit, on ne sait pas ce qui est arrivé à notre frère Joseph, mais on a trouvé son manteau plein de sang. Moi, je vais dire tout de suite, je sais ce qui arrive dans le cœur de Judas. Là. Il commence à se sentir coupable. Il commence à dire, la vie à la maison, là, c'est pas grave, papa, il crie tout le temps, tout le monde est en conflit, en chicane. Lui, il décide, ah, je vais faire à ma tête. Je vais faire qu'est-ce que ça me tente. Et il a décidé de quitter verset 1. Il quitte, il s'en va. Et littéralement, le chapitre se divise en trois sections. La première section, c'est justement Judas qui s'en va. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, Judas s'en va pas loin, pas si loin que ça, mais il s'en va vivre avec les Canaanites. Alors, le problème, c'est que Dieu voulait que les Hébreux soient mis à part. Et tu ne peux pas être mis à part si tu vas vivre comme les païens autour de toi. Et quand on vit parmi les Caïns, on prend leurs habitudes et on les voit à travers ce passage. Ceux qui l'ont entendu de la bouche de Moïse vont identifier très rapidement, parce que les Canaanites étaient bien connus pour leur méchanceté, pour leurs pratiques religieuses et toutes les choses qui vont dans leur vie. Et ils vont reconnaître le fait que Judas, ils se mettent dans une situation où ce que Dieu n'est vraiment pas en faveur. Alors, il s'éloigne de sa famille, il se retire, il va trouver une fille qu'il aime, la fille d'un Canaan, son nom c'est Shua. On ne connaît rien sur elle, tout ce qu'on sait que Judas l'aimait, Judas l'a a pris comme femme, et elle lui a donné trois fils. Elle a donné Er, et ensuite Onan, puis ensuite Shua. Et tout ceci, là, toute la première partie du chapitre 38 se passe dans les 20 ans que Joseph est en Égypte. Et tu penses un peu, quand tu lis l'histoire, tu réalises que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout d'un coup. La majorité de chapitres se trouve à la fin de ses 20 ans. Et quand on voit ça, parce que pourquoi? Elle a trois fils. Les trois fils, il ne nous dit pas ici, mais on peut l'assumer qu'ils vont grandir. Et le père va choisir une épouse pour l'aîné. Il choisit une fille qui s'appelle Tamar. Et elle prend pour son fils. Et alors, son fils a fait quelque chose aux yeux de l'Éternel. On voit verset 7. Et Dieu a pas aimé ça, là. C'était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. On ne sait pas ce qu'il a fait. Violence, immoralité, on ne sait pas.
Je pense que c'est la méchanceté de son cœur était élevée, il était peut-être méchant, cruel.
On ne sait pas, mais ça se pourrait.
Mais moi, je vais même plus loin dans la cruauté.
Et je pense que c'est surtout par rapport, c'est Dieu qui était offensé. Souvent, on pense à un péché, c'est quand j'ai fait mal à mon frère. Je m'en vais ici, je donne un coup de poing à Roy, tu sais. c'est pas bien. Mais il y a quelque chose ici que Dieu a été vraiment déçu à un point qu'il dit, je t'enlève la vie. Si on regarde certains caractères à travers les Écritures, il y a des gens qui ont perdu la vie instantanément. Un exemple flagrant dans le Nouveau Testament, Ananias et Sapphira. Mentir devant l'Éternel, boum, on les enlève leur vie, bouf, c'est fini. C'est ça qui est arrivé ici, quelque chose de soudain.
Mais je connais un roi qui était plus méchant d'entre tous, dans le livre des rois, je ne dirais pas chose, malgré qu'il était vraiment...
Ah, incroyable.
Il méritait la mort.
Ah, il méritait. Mais justement, la situation ici, c'est telle que, en fin de compte, elle n'a pas donné de fils à Er. Ta mère n'était pas enceinte par lui. Alors, normalement, dans le temps, et plus tard dans Deutéronome le chapitre 25, on va avoir toute une explication détaillée de ce que c'est le mariage lévite. C'est-à-dire que quand un homme meurt et il ne donne pas d'enfant à sa femme, c'est que normalement, pour garder la ligne de la famille, on va lui donner la femme à son frère et son frère va avoir l'obligation de produire un enfant pour protéger la lignée. Non. Nous, on vit un temps complètement différent, n'est-ce pas? La culture d'aujourd'hui, au Québec, on a un énorme problème, c'est que, comme population, notre taux de croissance est faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'enfants. À l'ouvrage, on me taquine de mes 15 petits-enfants, on me taquine pour mes 4 enfants. Et je leur dis simplement, je fais le job que vous autres ne faites pas. Je suis obligé de compenser pour vous autres, là. Moi, il faut que je remplisse cette province-là. Là. C'est ma job. Et vous pouvez voir la logique un peu, c'est que dans le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, l'idée, c'est qu'on veut protéger la ligne. On veut garder cette famille. Dieu nous a donné une promesse. Et à Abraham, Isaac, et on veut que cette promesse se garde. On a vu tout le trouble que ça a causé à Abraham et à Sarah, car elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais Dieu nous a donné une promesse. Et la promesse de Dieu, là, il va le garder. Et ici, on a cette situation où ce que Judas a un fils et son aîné est mort. Et il veut continuer quand même de nier. Il dit à Onan, prends ta mère, prends-les comme ton épouse et produis pour elle des enfants. Et Onan, il n'aime pas l'idée. So, Onan, il va obéir à son père jusqu'au point qu'il va quoi? Il va souiller la terre. Ce qui veut dire simplement, il ne va pas donner un enfant à ta mère. Et Dieu l'aime, et nous dit que Dieu, ce qui faisait déplut à l'Éternel, verset 10, qui le fit aussi mourir. Boum! Deux garçons partis. Non, je ne sais pas pour vous autres, là, mais Judas vit dans un monde païen. Un monde païen... Une des caractéristiques d'un monde païen, c'est qu'ils sont très, très, très superstitieux. C'est pas vrai, ça? All right. Ils ne sont pas les polythéistes. Ils ont un dieu pour le soleil, pour qu'on puisse avoir le soleil. Ils ont un dieu pour la lune, pour qu'on puisse avoir la lune. Ils ont un dieu de fertilité. Ils ont un dieu de guerre. Ils ont des dieux pour toutes choses. Ça, c'est ça, on appelle ça la superstition. C'est ça que c'est, n'est-ce pas? On est superstitieux, on a peur de notre ombrage, on a peur de tout. Et Judas commence à embarquer dans cette vie-là. Il vit parmi eux, il pense comme eux à cette heure. Et il dit, si je donne mon troisième, ça se peut que je perde mon dernier fils. Et il faut le comprendre, ça c'est le raisonnement de Judas. Et c'est pour ça qu'il envoie ta mère. Il dit quoi à ta mère? Retourne chez ton père. Et reste veuve. Et quand ce chien-là va être plus grand, je vais te donner à lui comme épouse. Ce que je trouve fascinant en lisant sur la culture cananéenne, je pose la question, où se trouve cette femme-là? Pauvre Tamar, elle semble être un morceau de viande qu'on garoche au chien. Ah, mais je trouve, elle doit être offensée, elle doit être blessée. Elle comprend très, très bien qu'est-ce qui est en train d'arriver. Elle n'est pas une ouf. Elle pourrait facilement trouver un homme parmi les Cananéens, mais non, elle connaît la promesse de Dieu. Elle sait, elle a entendu toute l'histoire des Hébreux. Elle comprend très, très bien que c'est spécial. Elle n'est pas un idiot, cette femme-là. Elle est très intelligente. Et malgré que ses efforts sont mal placés, elle comprend très bien ce que Dieu est en train de faire. Dieu fait une promesse. Et le mariage lévite est pour elle essentiel. Elle attend chez le troisième. Elle l'attend. Mais malheureusement, Judas, il n'a pas l'intention de garder sa promesse. Mais on arrive à la deuxième partie de ce chapitre. On arrive à verset 12. Et en fin de compte, les choses deviennent intéressantes. Intéressant parce que dans un drame social, si on parle ici à un téléroman hébreu de 3000 ans, on verra que la situation, c'est grave. Premièrement, la femme de Judas, Shua, elle meurt. Alors, Judas a un problème, là, plus de femme, plus d'enfant. Sheila devient vraiment le seul espoir qu'il a. Et alors, il passe un temps de deuil et il monte à Timna pour tondre ses bébés. Faut comprendre comment ça marchait un peu, c'est que le berger va avoir un paquet de moutons, il va les amener à un endroit où il va avoir des hommes spécialisés, qu'eux autres, ils vont enlever la laine sur le dos des brebis. Et c'est littéralement, si tu veux, pour le berger, c'est un temps de récolte. Et nous, on sait qu'est-ce que c'est la récolte. On aime ça, n'est-ce pas? Ceux qui ont des jardins, y a-t-il quelque chose de plus agréable d'aller chercher les propres produits de notre propre jardin, de l'amener dans la maison, de les laver, on va manger bien ce soir. Hey, c'est un moment joyeux. Pour les Canadiens, c'est encore plus important. C'est une preuve de la fertilité que les dieux les ont donnée. Et pour eux autres, superstitieux comme ils sont, ça devient un acte religieux. Ils s'en vont tondre les brebis et c'est un temps où on va célébrer la fertilité, le sol, le fait qu'on a eu un récolte, qu'on a eu un succès cette année. Ils vont le célébrer comme les hommes font, ils vont en manger trop. Ils vont boire trop et ça va faire un party. Normalement, dans les événements religieux chez les Canadiens, c'était évidemment aussi un temps sexuel où ils avaient beaucoup d'immoralité. C'était très commun. Ici, le mot qu'on a pour le prostituer, on a l'idée ici d'une prostituée sacrée. Quelqu'un qui était mis à part pour des pratiques religieuses, des rituels. Et c'était très bien connu parmi les Canaïens, et d'ailleurs, ta mère le comprend très bien. Elle connaît son beau-père, et ça, il faut le reconnaître. Son beau-père, c'est quelqu'un de bien saisi, elle l'a vu en action. On parle ici de 20 ans que Judas est parmi les Canaïens, il a adopté beaucoup de leurs pratiques, et elle sait que son beau-père aime ça, les prostituées. Autrement, pourquoi est-ce qu'elle a habillé comme elle a fait? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé sur ce plan d'action si elle savait bien comment est-ce qu'elle va tenter son beau-père? Et alors, elle fait justement ça, elle se transforme en prostituée, elle se place sur sur la route vers Timna, où est-ce qu'on va, on va couper, on va enlever la laine sur les brebis, on va les tondre. Et puis, elle s'assit aux portes d'une petite ville, un petit village, tout petit. Et elle s'assit là, elle met une voile. Et le voile, pour eux autres, est un symbole d'un prostitué. Et dans leur culture, c'était normal. Elle savait que son beau-père était pour être tenté. Alors, quand elle fait tout ça, Judas arrive, il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie un prix. Il comprend très bien comment ça se fait, comment est-ce que tu veux pour que j'arrive chez toi. Et elle dit, ça me prendrait quelque chose. Lui offre un de ses chevreaux. Elle regarde autour, elle dit, écoute, t'as pas de chevreau? Il dit, oui, j'en ai chez nous, je vais te l'envoyer. Elle dit, non, attends une minute, moi je veux une preuve. C'est un peu comme si on voit nous autres dans un endroit et ils veulent absolument quoi? qu'on dépose notre carte de crédit en premier avant qu'on remplisse l'essence. Vous avez déjà rencontré cette expérience-là? Ils veulent une gage, ils veulent une preuve, et c'est justement ce qu'elle demande ici. C'est la vraie négociation qui se passe. Et elle exige de lui son cachet, son cordon et son bâton. Non. Nous, on ne connaît pas vraiment ça, mais l'idée, c'est ici le cachet. Beaucoup des commentateurs disent que c'est comme une bague. Non, c'est pas une bague. C'est un médaillon. C'est une pièce d'identité. C'est un sceau qu'on se servait quand on voulait mettre sur un document notre signature. On prenait notre sceau, il nous appartenait, et on mettait ça dans le cire, puis on mettait un sceau. On ne peut pas ouvrir le document. Ce qu'on parle dans Apocalypse, chapitre 5, c'est ce que tous les hommes avaient, surtout les chefs de famille, comme Judas. Il avait ça et il était attaché au cou normalement. C'est pour ça qu'elle demande le corde. Elle ne veut pas juste le médaillon, elle veut le médaillon avec la corde. Quelque chose qui vient avec ensemble. Et elle veut son bâton. Son bâton, normalement un bâton pour un berger, c'était un objet important dans la vie quotidienne, mais c'était aussi une source de plaisir où on inscrivait sur le bâton des symboles, des noms, des messages. On mettait le bâton était propre à l'individu avec ses propres indications, ses propres caractéristiques. C'était vraiment des preuves de l'identité du propriétaire. Et je dis ça parce que c'est exactement ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à avoir des objets qu'elle pouvait dire, tiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils couchent ensemble, elle devient enceinte. C'est pas là, mais elle est enceinte de jumeaux, deux garçons. Judas envoie son chum pour le payer. Il trouve ça... moi, je trouve ça drôle qu'il n'ait pas retourné lui-même, mais non, il envoie son ami. Hein? C'est un vrai ami, ça, hein? Boy. Puis, évidemment, il n'y a pas de succès. Et Judas, sa réponse, c'est, ben tant pis. La réalité, c'est que Judas il est un peu frustré parce qu'il dit, écoute, je ne vais pas me promener dans tout le pays de Canaan pour trouver cette prostituée. Le monde va moquer de moi. Tu trouves, tu sais? Hey, bonhomme. Sur lui, il ne veut rien savoir. Il dit, écoute, on a fait notre part, on s'est essayé, on ne l'a pas trouvé, tant pis. Tant pis. Et il laisse sa mort. Mais évidemment, la troisième scène commence à verset 24. Trois mois plus tard, vous les madames, vous savez qu'est-ce que c'est trois mois enceinte? Oui? Ça commence à faire une bosse. On a de misère à garder le lunch. Ah oui, c'est pas facile la vie. Et ta mère est en train de vivre cette situation. Et on vient le dire à Judas. Et Judas est fâché. Fâché. Comment ça se fait qu'elle fait ça? Va le chercher. Traîne-le ici. On va le brûler. Un homme violent. Aussi violent que Lévi, aussi violent que Simeon. Bien, Judas, il va le faire. Et elle, on lui traîne. Littéralement, on lui traîne devant Judas. Et Judas est surpris parce qu'elle amène avec elle quoi? L'épreuve. Et elle dit très, très bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Il dit, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Verset 25. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? Et alors, ta mère, tu dis, c'est une femme intelligente. Elle dit, tiens, là, tu veux m'enlever la vie? Parfait. Mais c'est à cause de toi. C'est ta faute. Et il faut comprendre un peu que dans la loi hébreu, et Judas est vraiment pas conséquent ici, là. Dans la loi, quand on a l'adultère, qui est puni?
Les deux.
Viens brûler l'homme et la femme. Et ta mère est en train de dire, si tu veux me brûler, brûle toi-même aussi. Hein? Viens-t'en, bonhomme. Tu me fais des promesses, puis tu les gardes pas. C'est grave quand tu penses, là. Et Judas, il le reconnaît, il dit, elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné Sheila à mon fils. Judas est frappé par l'évidence que ta mère lui présente. Et sa confession montre en lui un cœur qui est touché par son propre péché. Je ne sais pas pour vous autres, vous avez vécu cette situation, j'espère que oui. Quand on constate notre état pécheur, pécheresse, quand on voit cela et on se dit, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, me sortir. Et on voit ici un changement radical dans la façon que Judas parle. Tout un témoignage, une confession. Bon, ça nous amène à une conclusion. Et conclusion, c'est pas facile. Oui, on peut dire que de l'immoralité sexuelle, c'est pas bien. C'est bon ça. On peut dire que garder ses promesses, c'est important. Oui, on peut en parler comme ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Nous avons ici une série de chapitres sur la vie de Joseph. Comment est-ce qu'il a été maltraité par ses frères, comment est-ce qu'il a été maltraité en Égypte, comment est-ce qu'il a été maltraité par la femme de Potiphar, comment est-ce qu'il a été maltraité dans la prison. Et on voit tous ces événements et on voit comment est-ce que Dieu l'a placé à une place parfaite pour que quand ils avaient besoin, c'est lui qui va dire à Pharaon, tu as besoin de quelqu'un, de s'occuper de la nourriture parce que dans 7 ans, on va crever. Et c'est incroyable comment est-ce que Judas est inséré dans le plein milieu de cette histoire-là pour qu'on arrive. Mais si on voit ça dans la vie de Judas, et on voit ici, c'est le commencement de la repentance. Okay? La repentance, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé instantanément. Judas a pris Tamar, il l'a amené dans sa maison, il l'a gardé, il s'est occupé d'elle et de ses enfants. Et on parle plus loin, comme on a lu tantôt, comment est-ce que c'est devenu un foyer de bénédiction, de bonheur. Et on voit comment est-ce que Dieu les a protégés. Mais encore plus, Judas va faire des choses qui vont vraiment donner des preuves de comment est-ce que Dieu l'avait transformé. Oui, on a vu que Joseph, il était humilié par ses expériences en Égypte, mais Judas avait ses propres expériences. Et il a pris un autre chemin. Et on peut voir un contraste entre les deux frères, et on peut voir toute une différence. Mais quand on arrive à chapitre 43, il y a quelque chose qui arrive qui est un peu inattendu. On est rendu dans le pays de Canaan, il n'y a plus de nourriture, on a déjà envoyé les 10 fils de Jacob, on les a envoyés en Égypte, ils sont revenus, mais Simeon est gardé là-bas, parce que Simeon, on pense que c'est une famille d'espions, c'est ça qu'on annonce, et là, on doit retourner en Égypte chercher d'autres nourritures. Et c'est qui va aller à la défense de la famille? C'est qui va prendre la place? C'est Judas. Judas va voir son père. Il va donner des gages à son père. Il va se dire, papa, je m'en occupe. Papa, compte sur moi. Papa, tu peux être sûr, certain qu'on va le ramener. Et évidemment, tu connais l'histoire parce qu'on l'a déjà raconté. Il s'en va en Judas, amène Benjamin avec lui et les 11 descendent en Égypte. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, la niaiserie des jeux de Joseph. Et ça, en passant, je vous ai déjà mentionné, moi personnellement, ça m'a agacé beaucoup. Beaucoup. Jusqu'à temps qu'on regarde chapitre 38. Et quand on regarde chapitre 38, on commence à comprendre les choses sont différentes. Joseph est encore fâché avec ses frères. Les exercices qui fait passer, les expériences qui fait passer ses frères, c'est pas un homme qui est rempli de bonheur et de gratitude. Non, c'est un frère qui a un petit crotte sur le cœur. Tu m'as vendu un esclavage, tu m'as fait souffrir pendant 13 ans, c'était pas fun ça, j'ai pas aimé ça pour 5 cents, et là, moi je vais t'avoir, j'ai le dessus. Et il est comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à chapitre 44. Parce que Judas va démontrer vraiment sa conversion. Judas, 44, là, on veut prendre Benjamin comme esclave, et Joseph, il dit, « Va-t'en, les garçons, j'en veux plus de vous autres, mais je garde ton petit frère. » Et l'idée, c'est simple, c'est Joseph, il veut garder Benjamin, puis il veut se débarrasser des frères qu'il avait maltraités. « Endure la colère de mon père. » C'est ça qu'il est en train de dire. Mais Judas s'approche et il donne un témoignage tellement convaincant à Joseph. Et le glaçage, c'est qu'il va venir à la fin de cette déclaration à s'offrir lui-même comme sacrifice à la place de Benjamin. C'est vraiment fascinant. Et qu'est-ce que Joseph fait à ce point-là? Qu'est-ce que Joseph fait? Il envoie tout le monde. Il garde ses frères et il tombe sur leur cou, puis il pleure, puis il dit, « Moi, c'est moi, Joseph. » Qui l'a convaincu de ça? Qui a touché son cœur? Dieu s'est servi de qui? Judas! Et encore, on voit cet homme transformé dans chapitre 38, qui est rendu vers le chapitre 44. Et on voit comment est-ce que c'est une situation. Pense pour un instant, le but de Joseph, tout le long, n'est pas de dire à ses frères, « Oh, Dieu l'a voulu pour votre bien, même si vous avez... » Verset 19 de chapitre 50, « Soyez sans crainte. » Je suis à la place de Dieu. Ça, c'est Joseph qui parle. Lui-même a été transformé. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Est-ce que vous voyez tous les fils dans ce tapis cousu ensemble pour faire une histoire incroyable? Dieu a transformé le cœur de ces garçons. Il a transformé le cœur de Joseph, il a transformé le cœur de Judas. Et il arrive à chapitre 50. Et moi, je trouve ça fascinant. Moi, je dirais, c'est quand même incroyable que Dieu peut faire toutes ces choses s'il n'avait pas de plan. Et c'est pour ça que je dis que Dieu est souverain, amen. Mais Dieu aussi est en charge de la providence. Lui a préparé avec toutes ses forces, toutes ses capacités. Il a dirigé les événements pour en arriver à avoir une lignée qui va arriver jusqu'à la fin. Et à la fin, on va dire quoi? On cherche le lion de Juda. Pour nous, quelle leçon pour nous de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? On va faire comme Flavel, on va regarder de reculons, puis on va dire, comment ça se fait que Dieu a mis moi dans une école de vacances où ce que une madame a enseigné les Écritures et je l'ai compris enfin qu'est-ce que c'est le péché dans ma vie et que j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur. Comment est-ce que le Seigneur a orchestré les choses dans notre vie avec un plan pour chacun de nous? Ça fait partie de ce grand tapis que Dieu est en train de coudre avec chacun de nous. Et quelle histoire merveilleuse, quelle leçon pour nous. Mais coubons-nous. Donnons Dieu gloire. Père éternel, on veut te louer parce que tu nous as choisis avant la fondation de cet univers et tu as cousu dans l'histoire tous ces différents personnages et tout ce que tu as fait et tu as fait dans leur vie pour que nous, on puisse le lire aujourd'hui et qu'on puisse apprendre et on puisse l'appliquer, de savoir que tu es en contrôle, que tu es en charge, que tu es tout puissant et malgré toutes ces choses-là, tu as même un plan que tu as déjà préparé. Tu as préparé longtemps pour nous et tu es en train de l'exécuter aujourd'hui et même jusqu'à la fin des temps. Père éternel, on veut te donner gloire et honneur pour tout ce que tu vas faire. Et on demande, Seigneur, sers-toi de nous comme tu as servi de Judas. Sers-toi de nous comme tu as servi de Joseph. Quelle leçon pour nous, Seigneur, de savoir que tu veux servir de nous, pécheurs comme nous sommes. Mais Seigneur, tu as envoyé ton Fils nous racheter. Et c'est une grâce incroyable. Seigneur, on voudrait demander ces choses parce que tu es digne de tout honneur et toute louange. Et on demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.